Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Un droit, pas une menace. C'est le titre d'un rapport publié aujourd'hui par Amnesty International. L'ONG y dénonce les restrictions à la liberté de réunion et de manifestation prises en France après les attentats de novembre 2015. Basée sur des témoignages de plus de 80 personnes, des syndicalistes, des manifestants, des journalistes, il montre non seulement des interdictions prises sous couvert de l'état d'urgence, mais aussi un recours démesuré à la force.
Les gens étaient extrêmement pacifiques. Par contre, les CRS étaient toujours là. De temps en temps, rentrer dans la nasse, prenez quelqu'un avec une brutalité extrême et les emmener en garde à vue, etc.
J'ai perdu la vue, j'ai perdu mon joli œil droit et aussi des conséquences psychologiques. Je suis en dépression et j'ai pas une très bonne perception de mon nouveau visage.
Une liberté de manifester entravée, une violence policière parfois disproportionnée. Selon Amnesty International, l'état d'urgence a en fait été dévoyé en France. Un courrier envoyé au président Macron par 10 autres associations dénonçait il y a quelques jours une atteinte insupportable aux libertés fondamentales. En vigueur depuis 18 mois, ce régime d'exception pourrait à nouveau être prolongé le 15 juillet, si l'Assemblée l'accepte, jusqu'au 1er novembre, car la menace terroriste est toujours très élevée. Alors l'état d'urgence a-t-il encore un sens en France? Eh bien, c'est notre débat de ce soir. Bienvenue.
RFI.
Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités dans ce studio. Laurence Blisson, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire générale du syndicat de la magistrature, juge d'application des peines, votre syndicat et l'un des signataires, du courrier que j'évoquais à l'instant. En face de vous, Christophe Rouget, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargé de la communication du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, acronyme SCSI, j'ai réussi. Voilà. Alors, pour commencer, je voudrais qu'on parle d'abord de l'efficacité de l'état d'urgence. Quelques chiffres. En un an et demi, 4500 perquisitions administratives ordonnées par les préfets. 85% dans les 6 premiers mois. Pour les assignations à résidence, 400 au cours des 3 premiers mois. Aujourd'hui, 68. Pourtant, il y a eu des attentats. Hein. Évidemment, Nice, Magnanville, Saint-Étienne-du-Rouvray ou encore les Champs-Élysées il y a quelques semaines. Christophe Rouget, l'état d'urgence est-il encore aujourd'hui une mesure indispensable pour la lutte antiterroriste?
L'état d'urgence est d'abord une réponse du monde politique aux citoyens. C'est une réponse politicienne. Nous, en tant que policiers, on est dans une démarche pragmatique. On n'a jamais sollicité la mise en place de l'état d'urgence. Ce qu'on veut, c'est que d'une matière pérenne, les policiers puissent prévenir les attentats, c'est-à-dire détecter les individus dangereux, ensuite les judiciariser, faire des enquêtes pour les amener devant la justice et qu'ils soient condamnés, et que des mesures soient prises à la sortie de la prison de ces individus, pour pas qu'ils ne puissent mettre en danger l'État. Donc l'état d'urgence a une efficacité dans l'urgence, pendant un moment donné, et ensuite ça perd de son efficacité. En revanche, il y a encore des mesures qui existent dans l'état d'urgence qui n'existent pas dans la loi. C'est par exemple des couvre-feux. On peut imaginer que lorsque le terroriste de Manchester s'enfuit, les services de sécurité apprennent qu'il va traverser la Manche pour aller à Calais, le préfet va pouvoir mettre un couvre-feu pour fermer la circulation à des endroits pour l'interpeller.
Vous êtes quand même en train de nous dire qu'aujourd'hui, alors peut-être pas les policiers, vous parlez pas au nom de tout le monde, mais certains policiers considèrent que l'état d'urgence est inefficace et donc plus nécessairement nécessaire aujourd'hui en France pour lutter contre le terrorisme?
Je crois que le président l'avait dit pendant la campagne, l'état d'urgence, c'est à un moment donné, il faut à un moment donné sortir de l'état d'urgence. Ce qu'il faut pour les policiers, c'est avoir des outils qui permettent de travailler dans un cadre légal, législatif, sous le contrôle des juges, ce que nous faisons au quotidien, pour pouvoir assurer la sécurité de nos concitoyens. C'est ça l'important.
Donc l'enjeu finalement, c'est d'en sortir aujourd'hui.
Tout à fait. C'est pas des débats sectaires ou politiques, c'est être pragmatique. On a eu des débats sur la déchéance de nationalité, sur ce sujet-là. Non, l'intérêt, c'est assurer. Nous, ce qu'on veut, c'est la liberté de nos concitoyens, mais pouvoir faire notre métier pour prévenir et qu'on n'ait pas des scènes d'attentats en France à nouveau.
Alors, Laurence Blisson, dans la lettre adressée à Emmanuel Macron par le syndicat de la magistrature, que vous représentez ici ce soir, et 10 autres associations, vous alliez loin hein, dans les mots. Vous parliez d'inefficience de l'état d'urgence, de son caractère contre-productif. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire?
Bien sûr. Évidemment que l'objectif, c'est celui de prévenir les attentats et de permettre aux policiers et aux juges de mener des enquêtes, des investigations sur les réseaux terroristes. Or, ça n'est pas ce que permet l'état d'urgence. Et au contraire, l'état d'urgence suscite des dérives. Je voudrais juste rappeler quelques chiffres qui ont été mis en avant par la commission parlementaire de suivi de l'état d'urgence. C'est un rapport Rimbourg-Poisson, donc transpartisan, hein, qui a été produit produit au mois de décembre 2016 et qui disait, à l'issue de près de 4000 perquisitions administratives de l'état d'urgence, il y a eu 20 procédures antiterroristes qui ont été ouvertes. Pendant le même temps, en matière judiciaire, strictement judiciaire, c'est-à-dire le travail classique de policiers et de juges sur les bases de la loi pénale, on a plus de 169 procédures qui ont été ouvertes en matière antiterroriste. La lutte antiterroriste, elle ne se fait pas dans le cadre de l'état d'urgence, elle se fait dans le cadre de ce travail et dans le cadre d'un arsenal pénal qui, à vrai dire, et c'est là qu'on peut avoir des divergences, est déjà extrêmement développé. On a eu plus de 5 lois antiterroristes depuis 2012, mais en réalité, elles viennent s'ajouter à différentes législations précédentes. Et donc, il n'y a pas d'insuffisance du droit en matière pénale antiterroriste. Bien au contraire, il y aurait des choses d'ailleurs à réfléchir sur des équilibres. Par contre, l'état d'urgence, il pose un certain nombre de problèmes parce que il ne vise pas des situations dans lesquelles on suspecte des personnes d'une infraction pénale. Et en matière antiterroriste, il y a pléthore d'infractions pénales, en réalité des infractions de soutien, des infractions de préparation du terrorisme. On est simplement sur un risque de trouble à l'ordre public. Et c'est là que instaurer des mesures de privation de liberté, mener des perquisitions administratives sur des critères juridiques qui sont aussi flous, aussi faibles, c'est ce qui donne lieu à des dérives. C'est un système qui ne permet pas d'avoir un contrôle a priori par un juge, qui ne permet pas d'avoir des bases solides pour mettre en cause des citoyens qui vont en avoir des conséquences. On a des citoyens qui ont été perquisitionnés, qui dans leur village, dans leur ville, sont désormais identifiés comme des potentiels terroristes alors que rien n'a été trouvé. Et qu'est-ce que ça crée dans notre société ? On a vraiment eu un régime qui dure depuis maintenant un an et demi, qui a mobilisé énormément de forces de police, alors même qu'il y a du travail policier évidemment à mener contre le terrorisme, mais il doit se mener différemment. On est dans une logique qui pour nous est contre-productive aussi parce que elle crée finalement un climat de suspicion, et ça je crois le défenseur des droits, Jacques Toubon l'a excellemment dit, la CNCDH, la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme l'a dit, les rapporteurs au niveau de l'Union Européenne et de l'ONU ont mis en garde la France contre ce régime. Il y a une impossibilité d'en sortir et je rejoins effectivement
alors,
le fait que c'est une réponse
Christophe
politicienne.
Roger, est-ce que vous êtes d'accord sur... alors, il y a, vous partagez un petit peu ce constat de l'inefficience, mais aussi des conséquences qui sont néfastes de toutes ces situations qui ont été à la limite du droit, de la suspicion que ça a pu créer. Là-dessus, vous êtes d'accord aussi en tant que représentant des policiers, ça a pu donner ça ?
Il y a pu avoir à des moments donnés des mesures qui, prises dans l'urgence, n'ont pas conduit ensuite à des poursuites judiciaires. C'est vrai. L'important, aujourd'hui, on a une réponse, on a tous les partis politiques, l'ensemble de la classe politique, qui est pour la prolongation de l'état d'urgence, puisque ça a été voté à multiples reprises.
Et les Français, selon un sondage, je crois que c'était en mars, 81% qui sont quand même pour la prolongation, c'est pas que...
Exactement, mais il faut savoir de quoi on parle aussi, c'est compliqué, l'état d'urgence, c'est des mesures administratives, législatives... Les mesures administratives, c'est quoi ? C'est de la prévention pour éviter un attentat. Donc parfois, dans l'urgence, on peut effectivement faire une perquisition de nuit parce qu'on peut avoir, par exemple, on sait qu'un terroriste a une connaissance à lui qui est à tel endroit, on va faire une mesure administrative avant qu'on ait eu le temps de saisir un juge. C'est dans le caractère de l'urgence que parfois ça peut servir. Mais la plupart des mesures, on va parler par exemple de l'assignation à résidence. L'assignation à résidence, tous les Français croient que c'est un individu qu'on garde chez lui qui ne bouge pas. C'est pas du tout ça. C'est un individu qui est radicalisé, par exemple, qui se présente deux fois par jour au commissariat et qui est assigné à résidence pendant toute la durée du terme d'urgence. Est-ce que c'est efficace ? Si on se pose tranquillement et qu'on regarde ça, non. Parce que ce monsieur, il vient au commissariat le matin, il revient le soir, ça ne va pas apporter plus de sécurité aux Français, il peut faire un attentat l'après-midi. Mais tout le monde a ce sentiment-là. Donc je pense qu'il y a besoin de pédagogie. Et ce qui est utile pour nous, c'est de donner les moyens à la police de faire des enquêtes. Parce que le drame aujourd'hui, il est là, c'est qu'on a une procédure pénale qui est très lourde, on n'a pas forcément les moyens humains pour faire ces enquêtes-là. Et ce dont on a besoin, c'est ça, c'est que pour faire une surveillance de quelqu'un de radicalisé, il va falloir avoir des services de police judiciaire, des services de renseignement qui aient des moyens, pour ensuite le présenter devant un juge et avoir une condamnation.
Et pas
c'est
forcément une nouvelle loi, parce que c'est ce que dit là le gouvernement Macron, qui dit effectivement on prolonge, mais dans l'idée d'en sortir, et pour ce faire il faut attendre la création de cette nouvelle loi avec de nouvelles propositions. On n'en a pas du tout les contours, donc pour l'instant on ne sait pas, mais on nous dit nouvelle loi. Vous en pensez que
je
c'est pas nécessaire ?
Je n'ai pas non plus les contours de cette nouvelle loi. Il y a des éléments pour agir en urgence ou pour permettre, parfois aussi certaines protections. Si on prend les manifestations, parce que je dois dire que dans le reportage...
Attendez, je vais peut-être demander à Laurence Blisson de réagir sur ce point-là. Est-ce que vous pensez, je pense que non, vous l'avez déjà un petit peu dit dans votre première réponse, qu'aujourd'hui l'arsenal juridique français est insuffisant ou bien il est suffisant, cette nouvelle loi? Vous en pensez quoi sur le principe?
Alors sur le principe, on est absolument opposé à ce qu'il y ait une nouvelle loi, alors qu'on est dans un domaine dans lequel d'abord il y a très peu d'évaluation de l'accumulation des dispositifs qui existent. Moi je rejoins la problématique des moyens policiers humain principalement. Hein. Il y a très peu d'évaluation et en réalité on se rend compte qu'à chaque fois, et ça a été le cas lorsque la loi sur l'état d'urgence a été votée, on a le sentiment qu'il y a une ignorance sur ce qui existe. Je veux juste réagir sur certaines choses. Le couvre-feu, par exemple, qui est évoqué. Il est possible, en droit administratif classique, d'ordonner un couvre-feu dans certaines conditions particulières. Ce que change l'état d'urgence, c'est que ça donne un caractère plus systématique et finalement, la motivation doit être celle de l'administration a besoin d'être un peu moins forte. Quand on a un attentat qui vient de se produire, je veux dire, dans le cadre classique, on pourrait très bien le faire. La perquisition de nuit. La perquisition de nuit en matière judiciaire, quand un attentat vient de se produire, on est en matière de flagrance, ce qu'on appelle la flagrance. C'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs policiers qui sont plus importants. Le juge des libertés et de la détention qui peut autoriser cette perquisition de nuit, il intervient de manière urgente et en réalité aussi vite qu'un préfet qui doit l'autoriser dans le cadre de l'état d'urgence. Sur l'assignation à résidence.
Cette disposition sur la perquisition de nuit, ça y est, elle a été transposée dans le droit commun, puisque c'est de ça dont on parle, hein, des dispositions avant de l'état d'urgence qui maintenant sont dans la loi.
Déjà, même avant la loi du 3 juin 2016, en réalité, on est dans une fuite en avant qui a pour base finalement une ignorance de ce que représente l'arsenal pénal et la procédure pénale antiterroriste. Et là-dessus, il y a vraiment un problème. Je voudrais réagir à quelque chose qui a été dit parce que effectivement, c'est une mesure politicienne qui part du sentiment des Français. Vous avez évoqué un sondage. Le problème, c'est qu'on est en train de mettre en balance le sentiment des Français, un sentiment d'insécurité qui est réel par rapport à une menace très forte, avec la liberté de certaines personnes, et on prend des libertés avec ces libertés-là. Quand on parle de l'assignation à résidence, on a eu au total près de 400 personnes qui ont été assignées à résidence. Très peu d'entre elles, je crois moins d'une dizaine, ont été mises en examen pour des actes de terrorisme depuis. Sauf qu'entre-temps, l'assignation à résidence, je rejoins, c'est vrai, elle empêche personne de commettre un attentat. Par contre, être empêché de sortir des limites de sa ville, devoir pointer trois fois au commissariat par jour, ne pas pouvoir entrer en contact, ça a des conséquences extrêmement lourdes. Et on a des témoignages, je crois, dans le rapport notamment d'Amnesty International, il y a eu vraiment des violations d'un certain nombre de libertés et de droits. Ça vaut pour les personnes qui étaient suspecté d'être en lien avec le terrorisme sur des bases extrêmement floues, ça vaut aussi dans le domaine des manifestations que vous avez évoquées en début de reportage.
Alors, Laurence Blisson vient de nous dire, la loi suffit, elle est parfois même redondante dans les nouvelles dispositions qui sont apparues ces derniers mois. Qu'est-ce que vous répondez, Christophe Rouget? Effectivement, pas nécessairement de nouvelles lois, vous avez besoin uniquement de moyens. Qu'est-ce que vous réclamez? Vous nous disiez les moyens de faire appliquer la loi.
C'est ça l'essentiel, les moyens de faire appliquer la loi et de donner les moyens aux policiers de faire correctement leur métier. La loi, il y a encore quelques points de détail pour assurer une meilleure protection des Français, donc il faut regarder ce qu'il va y avoir dans cette nouvelle loi. On ne peut pas en parler aujourd'hui puisque je ne sais pas quel est son contenu. Mais si on prend les manifestations, pour revenir sur les manifestations, parce que dans le reportage, il y avait un amalgame entre l'état d'urgence et les violences policières. Ça n'a aucun rapport. L'état d'urgence et les violences policières, c'est deux sujets totalement distincts. On peut parler des deux, mais ça n'a aucun rapport. En revanche, par exemple, il y a des domaines qui sont peut-être prévus par la loi, si j'ai bien compris les annonces politiques, c'est de pouvoir interdire des manifestations à certains individus. Aujourd'hui, si vous faites des violences dans un stade, vous êtes interdit de stade. Ça ne pose de problème à personne. C'est une mesure de protection par rapport à tous les téléspectateurs, aux spectateurs. Demain, lorsqu'on a une manifestation, on l'a vu, il y a des gens qui sont agressifs, qui sont organisés, qui viennent pour casser du flic, qui sont parfois condamnés par la justice. Si on mettait en place une peine qui permette que ces gens-là ne reviennent pas dans une manifestation, ce serait une mesure de bon sens uniquement pour protéger, et je suis syndicaliste, et les gens qui veulent librement manifester dans la voie publique. Donc je vois, il y a des mesures qui peuvent être prises.
Alors puisqu'on parle concret, réponse concrète, Laurence Blisson, est-il vrai qu'aujourd'hui on n'a pas les mesures avec les lois qui existent d'interdire un manifestant qui aurait été violent de participer à une autre manifestation?
Alors ce qui existe aujourd'hui, c'est la possibilité pour la justice pénale, lorsqu'elle condamne une personne suite à des violences en manifestation, de l'interdire pour l'avenir, et c'est une peine qui fait suite à un débat judiciaire, une condamnation pour des faits précis. Là, ce dont on parle, c'est une interdiction administrative préventive de manifester. Ça a été évoqué dans un rapport parlementaire Popelin, qui avait été présenté après le décès de Rémi Fraisse, présentait cette mesure d'interdiction préventive de manifester. Et là, on est vraiment dans une dérive. Et je dirais que la question des interdictions de stade, interdictions administratives, donc prises par l'autorité exécutive, sans débat préalable, sans qu'il y ait une procédure pour socle de tout cela, elle pose problème, effectivement, parce qu'on est dans une dérive dans laquelle, au prétexte de vouloir prévenir des événements, on en vient à priver des personnes de droits sur des bases qui sont beaucoup trop floues. Et pour nous, il serait extrêmement dangereux, et effectivement, c'est l'un des effets de l'état d'urgence et de cette habitude que l'on prend à l'état d'urgence, c'est créer une véritable un renversement des principes qui nous conduit à nous dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de manière préventive sur des bases qui sont beaucoup trop floues. Le fait, par exemple, que des gens ont été interdits de manifestation pendant l'état d'urgence. Ils l'ont été parce que ils avaient été, dans les notes blanches, dits comme étant présents à telle ou telle manifestation, parce qu'ils fréquentent tel ou tel groupe. On n'est pas sur des bases concrètes, sur une condamnation pénale, sur un acte qui a été...
Et surtout, on n'est pas en matière de lutte antiterroriste, ce qui est quand même à la base le principe. C'est justement, sur cette question, je voudrais que vous soyez un petit peu plus précis. Vous nous disiez tout à l'heure, il manque quelques dispositions dans les lois telles qu'elles sont pour qu'on puisse mener à bien notre mission de lutte antiterroriste. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce qu'il manquerait? Ce serait par exemple la capacité à fermer des lieux de culte, des choses comme ça?
Ça, c'est possible déjà en droit administratif hors état d'urgence. Donc, je crois que c'est surtout dans les process qu'il faut qu'on puisse aller vite, parce que malheureusement, dans le terrorisme actuel, on a besoin de rapidité. Et parfois, les process judiciaires sont encore trop longs. Donc, c'est surtout dans ce domaine-là qu'il faut qu'on puisse avoir une rapidité d'intervention. Sur les manifestations, malheureusement, on n'a pas ces applications de peine pour les interdictions de manifestation. Nous, le but du jeu, c'est pas d'empêcher les gens d'avoir des libertés, c'est de protéger les citoyens, les autres citoyens, soit du terrorisme, soit des manifestants violents. Donc, c'est ça l'intérêt. Et donc je crois qu'il faut rester sur les fondamentaux, liberté des citoyens, mais que les policiers puissent avoir un contexte de droit qui leur permette de travailler correctement.
Laurence Blisson, sur l'accélération des procédures, est-ce que ça, c'est pas une vraie question?
Je crois pas vraiment en matière antiterroriste. Il y a une... Et d'ailleurs, on voit bien comment fonctionne, par exemple, le parquet de Paris en matière d'antiterrorisme. Il y aurait beaucoup à dire, d'ailleurs, sur la question de la centralisation à Paris dans ce domaine. Et est-ce qu'il faudrait pas envisager plutôt des juridictions régionales? Mais, à vrai dire, je crois pas qu'il y ait un problème en ce sens. Je voudrais juste réagir sur la question des manifestations, parce que interdire à une personne de manifester, qui est un droit essentiel dans une démocratie, ça ne se fait pas à la légère, ça ne peut pas pour nous se faire de manière préventive dans un domaine administratif, mais même en matière judiciaire, lorsque c'est une condamnation pénale, ça doit rester exceptionnel, évidemment. De la même manière que ça doit rester exceptionnel à quelqu'un qui est condamné pour des faits de délinquance routière, de lui retirer sa voiture et de l'empêcher de conduire pendant des années. Il y a quand même un principe qui doit être celui toujours de nécessité, de proportionnalité des sanctions dans ce domaine-là. Avec l'état d'urgence, on est vraiment dans un bouleversement de tous ces principes fondamentaux dans une démocratie. Et malheureusement, il n'y a aucun courage politique aujourd'hui pour en sortir. Il faut savoir dire que
alors,
la menace
on verra,
terroriste
puisque
est
c'est
lourde.
Pas parce que le gouvernement a dit qu'il souhaitait la prolongation que ce sera voté. Tout va évidemment dépendre des législatives dans 10 jours et pour le second tour une semaine plus tard, puisque c'est les députés qui vont devoir voter cette loi.
Bien sûr, il y a eu lors des précédents débats parlementaires des unanimismes malheureusement assez forcés, et on a eu aussi une pression très forte de certains hommes politiques. Un refus de saisir le Conseil constitutionnel. Manuel Valls avait dit il ne faut pas prendre le risque de saisir le Conseil constitutionnel. Il y a quand même une inquiétude très forte face au risque de cette nouvelle prolongation de l'état d'urgence.
Et réponse le 15 juillet donc pour le vote qu'on nous promet sur cette prolongation ou non de l'état d'urgence. Merci beaucoup à vous deux, Laurence Blisson du syndicat de la magistrature, juge d'application des peines. Merci beaucoup à vous, Christophe Rouget, du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Merci également à Florence Ponce, Sarah Magnin et Quentin Bresson.